Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Vous êtes prêts pour contre-histoire, pour le départ vers le Grand Texas? Alors, comme promis, nous appareillons. D'abord, rendons à César ce qui appartient à César. Et l'idée originale de cette histoire et de tout le scénario, complexe et sublime, à G. Nombalès. Mille pardons pour la prononciation, ce monsieur est un Américain californien. Autant dire que la conquête de l'Ouest, il en connaît un rayon. Ces personnages partent du Texas, et puis, les Américains étant Américains, ça s'est pas arrangé. Ça s'est agrandi, l'armée a avancé, etc., etc. A donc transmis sa culture d'Américain à Grégory Jarry et Otto T. Et voilà ce que ça donne. Pamphlet politique à l'usage des gros capitalistes. Petite histoire du Grand Texas raconte l'histoire du plus fameux des États d'Amérique et explique comment la fièvre texane s'est peu à peu emparée de toute la planète. Guerres indiennes, guerres de sécession, guerres du Vietnam, guerres en Irak, guerres en Afghanistan. Et cette dernière édition inclut le printemps arabe, l'intervention en Libye, ainsi que la redoutée guerre Israël-Iran, avec le recours aux armes de destruction massive et la fin du monde qui s'ensuivit. Alors maintenant vous êtes au parfum, on peut y aller. Quand vous ouvrez l'album, vous voyez quelqu'un qui a une silhouette un peu surprenante. Une ceinture de cow-boy avec un étui à revolver de cow-boy. Tout ça sur une espèce de robe un peu bizarre. Et puis il a une grande barbe, et il est en train de s'amuser à trouer une boîte de conserve fichée sur un piquet. Mais la boîte, elle tient le coup, elle va très bien. Par contre, le cactus qu'il y avait dans la nature derrière, il est par terre. Et l'oiseau qui passait par là aussi, il est par terre. Et même le bison qui était venu voir ce qui se passait, il est par terre aussi. Tout ça pour une boîte de conserve vide. Mais il faut bien s'amuser. Et notre tireur d'élite regarde sa montre et s'aperçoit qu'il va être en retard à son rendez-vous. Vite, il saute sur son canasson et le voilà qui arrive au ranch. Il arrête son cheval, l'attache à la barrière, passe le portail. Et on le voit sauter dans un fauteuil face à une caméra. Mais c'est bien sûr notre invité du jour à Canal Sud. Alors, on va faire connaissance.
Ay, que bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar.
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da. Criaturitas que ha chupado usted, ninguna, ninguna, ninguna no ve, ni ando en pretensiones de chuparme usted.
Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar. Y a tu marido el ombligo y a tu madre. chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ¿no ve? Que ando en pretensiones de chuparme usted.
Je m'appelle Mohamed Ben Youssef. Et avec moi, vous n'allez pas vous ennuyer, puisque je suis spécialiste de l'histoire du Texas. Le Texas nous renvoie à l'enfance, quand on chevauchait des pur-sang indiens et qu'on prenait des bisons au lasso. Mais le Texas, qu'en savons-nous vraiment? Les impressions de l'enfance ont-elles eu raison de façonner l'adulte que nous sommes devenus? Notre orateur explique sur la belle carte d'Amérique du Nord, carte projetée par la caméra rétroprojecteur dernier modèle, il explique le Texas. Voyons d'abord la carte. À l'origine, le Texas se trouvait au sud des États-Unis et au nord du Mexique. Il est faux d'affirmer que le Texas n'est qu'une vaste et morne plaine. Ça, c'est Waterloo. Au Texas, les plaines sont variées. Hautes plaines avec des rochers, basses plaines avec des étangs, moyennes plaines avec des cactus. Chapitre 1. Les espingouins. Alors, le rétroprojecteur nous offre l'image de trois espingouins. Un andalou, un catalan et un castillan. Qu'on dirait jumeaux. Sauf la tignasse du catalan, joliment bouclée, tandis que les deux autres sont pourvus de barbes et tifs raides comme des spaghettis crus. Les trois sont en uniforme, j'allais dire précolombien. Que nenni, colombien, les uniformes. Et les soldats y tout. Hélas! Armures, casques et francisques menaçantes, emmanchées sur de très longs manches à balai. Vous suivez? Au commencement, il y avait les espingouins. C'étaient des gens dépenaillés qui sentaient l'huile d'olive. Slurp! En 1492, ils avaient découvert l'Amérique grâce à Christophe Colomb. Un Italien aux cheveux gras qu'ils avaient soudoyé au mascarpone. Et on voit les échanges qui ont pu avoir lieu entre les Indiens et les Espagnols. Un Andalou et un Indien semblent jouer à ce jeu que nous avons, vous et moi, pratiqué quand on était petit. Quelle main tu veux? La droite ou la gauche? À gauche, il n'y a plus rien. À droite, qu'est-ce qu'il y a là? Une pierre qui brille comme c'est pas possible. Pépite? Diamant? On le dit pas dans la chanson, et la BD est en noir et blanc. Alors vous choisissez l'hypothèse qui vous semble la plus probable. Oh là là! À partir de là, les autochtones sont fichus. Car les espingouins, or ou diamant, l'andalou, il en veut d'autres, et il veut continuer à jouer à quelle main tu veux. Et comme il n'y a plus rien dans les mains, ni dans la tunique de l'Indien, quand l'Indien lui dit pour jouer « quelle main tu veux ?», l'espingouin répond d'un coup de sabre « les deux !» en tranchant les deux mains fermées sur le vide. Inaugurant du même coup une technique de maintien de l'ordre qui fera des émules dans tout le continent et jusqu'au Chili, plusieurs siècles après. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Les Indiens étaient les propriétaires légitimes du continent et ça n'a pas empêché les espingouins de les monter les uns contre les autres pour mieux les réduire en esclavage. Et aux copains de l'Indien trucidé qui accourt, c'est pas l'Indien trucidé qui accourt, c'est le copain, évidemment. Au copain, donc, l'espingouin désigne comme étant l'agresseur un autre indien qui passe au fond de la vignette. Aussitôt, le copain bondit sur son compatriote et, profitant de la mêlée, l'espingouin embroche les deux à la fois d'un seul coup d'épée. Mais dans ce pays, il y a beaucoup d'Indiens. D'autres ont vu le triste spectacle et font illico pratiquer à l'espingouin une profitable séance d'extension, comme il m'a dit le kiné. Suspension par les bras, c'est excellent pour les vertèbres. L'Andalou leur tousse à la figure. Les Indiens qui n'ont jamais vu ni entendu personne tousser se demandent quelle est cette insulte et ce bruit inouï jusqu'alors. De quelle sorcellerie s'agit-il? Ils récupèrent le cimetière de l'espingouin et cherchent ensemble ce qu'il peut bien avoir dans le ventre pour émettre pareil borborygme. Las, ils ne trouvent rien dans le fouillis fumant qui a chu sous le pendu, soudain silencieux. Ils se séparent désolés et malédiction. L'un d'eux éternue. À ceux qui ne voulaient pas se soumettre, les espingouins refilaient des rhumes carabinés dont ils réchappaient rarement, car ces pauvres gens n'avaient pas de mouchoir. Les espingouins venaient d'inventer la guerre bactériologique. Je fais beaucoup d'efforts pour vous permettre de visualiser J'espère que vous en êtes conscient. Les Indiens moururent en grand nombre. De dangereux anarchistes vont même jusqu'à parler de génocide à ce sujet. C'est tout dire. Les Indiens moururent donc en quantité de la grippe et d'autres maladies offertes sur un plateau ou dissimulées dans des couvertures, comme la variole par exemple, par des Européens attentifs et généreux. Une vignette montre des Espagnols posés en triomphe sur un tas de cadavres indiens, dont certains toussent encore. On voit aussi que, pour arroser leur conquête, les Espagnols faisaient de grandes fêtes où ils mangeaient de la paella, une nourriture étrange avec des bouts de coquilles de moules dedans. Sur une vignette, deux Espagnols attablés attendent que soit prête la gigantesque paella que touille un cuisinier semblant ramer à bord d'une barque fumante posée sur un grand feu. Tandis qu'à proximité, pour ne pas perdre la main, un compatriote nostalgique s'entraîne à la corrida avec un bison du coin. Après quelques passes à la moulette, il va pour passer aux choses sérieuses. Mais avant qu'il ne pointe son épée, le bison se met à tousser. Et sans avoir connu la jouissance d'asséner le coup fatal,
le malheureux Espagnol exilé voit sa victime s'effondrer.
Le bison rend l'âme dans une quinte de toux qui fait trembler la terre. Tout cela ne pouvait pas durer, car notre Seigneur Jésus-Christ ne l'aurait pas permis. Dans la première moitié du XIXe siècle, Simon Bolivar combattit les Espagnols et donna leur indépendance aux pays d'Amérique latine, pile poil, le jour de leur fête nationale. Et les vignettes suivantes nous démontrent que le Bolivar y s'y entendait pour tronçonner les Espagnols, aussi bien que le Christophe Colomb. Avec un égal talent pour semer la zizanie dans les rangs ennemis où l'Espingouin se précipite sabre au clair avant de freiner des quatre fers devant une procession exhibant une tête espagnole casquée et dégoulinante. La page se termine sur une fuite espagnole avec grand écart somptueux qui n'a rien à envier à ceux des danseuses de Carlos Saura. Si ça ne vous dit rien, voyez YouTube sans retard, vous passerez un grand moment. En 1821, le Mexique prit son indépendance. À l'époque, le Texas était une province mexicaine et on l'appelait le Texas, car les Mexicains ne savaient même pas prononcer les X. Et les vignettes assorties montrent un cours de MLE, mexicain langue étrangère, où j'avoue me perdre un peu. Pour les Mexicains, le Texas était difficile à contrôler. Trop éloigné de la capitale, pas assez de gens pour mettre les terres en valeur. Ces feignasses de Mexicains préféraient manger des sauterelles grillées. C'est hyper protéiné. Ça ridiculise tous les steaks de bison de la planète. Et c'est en plus absolument délicieux. On y goûte à Ramonville, si ça vous dit. Les Mexicains préféraient donc se dorer la pilule au soleil et se nourrir de brochettes de sauterelles plutôt que de labourer les plaines pour faire pousser du blé. Et des images obscènes étalent sur plusieurs pages le spectacle lamentable de ce bonheur paresseux, ignorant la valeur ajoutée. Mais l'ennui naissant un jour de l'uniformité, un Mexicain fut soudain pris de l'envie d'une baguette de pain dont il avait entendu causer les Américains voisins, lesquels n'avaient pas encore inventé l'éponge sous cellophane. Ce Mexicain était doué d'un charisme redoutable. et développant des talents inconnus de publicitaire en boulangerie, il convainquit ses compatriotes de faire venir des travailleurs immigrés américains pour cultiver la terre à leur place, en leur promettant la nationalité. Les Américains appliquèrent, labourèrent et semèrent, et virent bientôt leurs efforts ridiculisés par le gigantesque casse-dalle que firent les sauterelles de leurs épis dorés. Surtout que les Mexicains arrivèrent en courant pour faire leurs provisions, armés de leurs filets à sauterelles. Ça continua à coups de fusil, surtout que la nationalité n'intéressait pas les Américains. Ce qu'ils voulaient, c'était la terre, à américaniser, ou à annexer, si vous préférez.
Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo.
Soy pescador.
Bon, ça suffit comme ça. Faudra en garder un peu pour le premier de l'an. J'espère que ça vous a plu et que vous serez quelques-uns à rire de mon accent américain ce soir. Joli Noël à tous et à bientôt sur canalsud.net, rubrique chroniqueur ou contre-histoire.